en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. Donc, vous l'avez dit, le sujet est délicat. L'agriculture nous concerne tous pour des raisons longues dans les familles, hein, très souvent. Notre agriculture est aussi un lieu où les questions sociales se posent avec beaucoup d'acuité. Et nous allons le voir, c'est aussi un lieu qui concentre les errements de nos politiques, hein, que ce soit les politiques conduites au niveau national ou les politiques conduites au niveau européen, toujours avec les meilleures intentions du monde, mais quelquefois avec des effets cumulés quand les politiques s'empilent les unes sur les autres, qui sont des effets non attendus et en tout cas non souhaités. Donc le titre a été rappelé. Le titre est peut-être un petit peu ambitieux puisque le leadership perdu se retrouvera difficilement, mais en tout état de cause, le sujet dont il s'agit est comment faire pour que ça aille mieux dans l'agriculture en France. J'insiste sur le fait que l'agriculture est entendue ici au sens large, couvrant à la fois l'agriculture au sens classique du terme, mais aussi toute la partie industrie agroalimentaire qui est difficilement dissociable aujourd'hui de l'agriculture. Beaucoup de produits agricoles n'ont de sens et de valeur ajoutée qu'une fois transformés aujourd'hui. Alors, pour illustrer ce que vous avez déjà annoncé, ce leadership perdu, ce graphique montre quelle est la part de la France et d'autres pays que je vais citer tout de suite dans les exportations de produits agricoles et alimentaires, donc au sens large, au niveau mondial, depuis 1969. Donc, ça permet pour commencer d'avoir une perspective longue. Et ce que nous voyons ici, c'est que la France est la courbe en pointillé bleu. Donc elle était tout en haut du graphique, à 9% au moment où le point culminant a été atteint, au début des années 90, et elle est retombée à peu près la moitié aujourd'hui. Donc c'est une baisse absolument vertigineuse. Sur le même graphique, tout près, vous voyez une courbe en gris qui représente les Pays-Bas, une courbe en vert qui a un profil assez différent qui représente l'Allemagne, une courbe en orange qui représente l'Espagne, dont on dit souvent qu'elle a des problèmes de compétitivité, ça ne se voit pas sur ce graphique pour l'agriculture. En rouge, l'Italie, et la courbe du bas représente le Danemark, qui lui est surtout centré sur les industries agroalimentaires. Donc, perte de part de marché qui dure depuis 25 ans. Cette courbe nous montre que rien ne permet de penser que ça va s'arrêter. Ça contraste avec des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne et à un moindre degré l'Italie. Et c'est d'autant plus étonnant que pendant très très longtemps, on nous a dit la France a un avantage compétitif ou comparatif, pour employer ce terme des économistes, dans l'agriculture. La France a tout un ensemble d'atouts qui font de ce pays naturellement un exportateur puissant en matière agricole. Toujours est-il que nous sommes revenus aujourd'hui au niveau de 1969. Alors, une autre façon de regarder les choses est de ramener la comparaison aux seuls pays européens, aux seules exportations européennes, puisque le monde se dilate, le monde s'élargit, de nouveaux exportateurs apparaissent, et donc il est assez naturel, au fond, que les parts de marché européennes se réduisent. Et donc, ce qui est peut-être plus significatif, c'est de regarder la part de la France dans les exportations de l'Europe. Pour les mêmes produits sur une période plus courte. J'ai commencé ici en 2000. Donc à nouveau, la France est en pointillé bleu et l'évolution de cette courbe confirme tout à fait ce que nous avons vu sur le graphique précédent. L'Allemagne est toujours la courbe en vert et ceci confirme également ce qui a été dit précédemment sur le contraste entre ces deux pays. Et puis on retrouve tout en haut donc les Pays-Bas, on retrouve l'Espagne en orange, l'Italie en rouge et le Danemark, en violet. Alors, c'est une comparaison qui est intéressante, puisque, au fond, L'ensemble de ces pays a la même politique agricole commune au niveau européen. Donc ces pays sont dans une même monnaie. Bon, on a d'autres concurrents en Europe qui ne sont pas forcément dans la même monnaie, nous y reviendrons. Mais ici, pour cela, la question ne se pose pas. La même politique commerciale, quand on négocie les accords commerciaux à l'OMC, quand on négocie les accords régionaux au niveau de la Commission européenne, par exemple, récemment, on en reparlera avec le Canada, eh bien c'est la même politique commerciale qui s'applique à l'ensemble de ces pays. Et juste pour conclure sur ce point, quand on oppose la situation française et la situation allemande, c'est assez intéressant puisque vous vous rappelez peut-être que quand on a mis en place le marché commun à la fin des années 50, donc en Europe, la crainte était que la France devienne un grand pays agricole et l'Allemagne la grande base industrielle de l'Europe. Eh bien, on voit que les choses se sont déroulées un petit peu différemment et que l'Allemagne est devenue non seulement une base industrielle, mais aussi, pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure, un grand exportateur agricole. Et à nouveau, ceci contraste avec les atouts de la France, la très grande variété des produits agricoles que nous avons tous en tête, inutile d'y insister ici, la très grande variété des labels, les AOC, et puis tout un tas de domaines comme les fromages, les vins, etc., où la France a naturellement une histoire forte et donc des atouts qui pourraient être peut-être validés mieux. Alors, rentrons un petit peu dans le détail et revenons à la part de marché mondial pour trois dates. Donc, chacune des barres représente la part de la France dans le monde en 2000, puis en 2007 et puis en 2015. Et donc, si vous prenez l'ensemble de l'agriculture, ce sont les barres qui sont au milieu du graphique, la baisse dont nous avons parlé tout à l'heure se retrouve ici. Et voyez que cette baisse se retrouve dans l'ensemble des compartiments de l'agriculture et des industries agroalimentaires. Le graphique est organisé de la façon suivante. Dans le haut du graphique, vous avez plutôt le haut de la filière, donc les choses qui sont en amont de la filière, comme les céréales, comme les autres produits agricoles au sens strict, ou les produits agricoles non comestibles. Et en bas de ce graphique, vous avez les choses transformées, donc les produits alimentaires en général, puisqu'on appelle l'agroalimentaire. Et j'ai comparé, même si ce n'est pas l'alimentaire, avec ce qu'on appelle le manufacturier minimum, c'est-à-dire le manufacturier moins l'industrie manufacturière, donc qui ne comprend pas les industries de transformation agroalimentaire, donc c'est l'industrie automobile, etc. Et donc, si vous comparez ce qui se passe dans l'agriculture avec ce qui se passe dans l'industrie manufacturière, finalement, ça ressemble beaucoup. Et donc, quand on regarde tout cela, on a envie de dire qu'au fond, il n'y a pas de grande spécificité dans les évolutions observées au niveau de l'agriculture. Ça couvre à la fois l'agriculture de base, l'agriculture transformée, et ce qu'on observe n'est pas très différent de ce qu'on observe pour le secteur manufacturier pris dans son ensemble. Donc les pertes de parts de marché ne sont pas spécifiques. Alors, quels sont les déterminants des pertes de parts de marché? L'analyse économique en trouve assez facilement plusieurs. La première que j'ai déjà évoquée, c'est la différence de taille entre la France et le monde. Donc, si la France grandit moins vite que le monde, et si tout le monde vend des produits agricoles, mécaniquement, la part de marché de la France se réduit. C'est un argument assez simple. La question du change peut avoir une explication, mais je l'ai déjà exclue pour ce qui concerne la comparaison entre pays européens de la zone euro. Alors ensuite, on est obligé de se tourner vers d'autres explications, et généralement nous en avons deux. L'une qu'on appelle la compétitivité prix, qui consiste à regarder finalement comment les prix des mêmes produits évoluent sur les marchés mondiaux quand ils proviennent de différents exportateurs. Et cette compétitivité prix, elle dépend au fond de deux choses. D'une part, combien coûtent les facteurs de production, donc le travail, le capital, la terre, etc., les intrants, et quelle est la productivité de la mise en œuvre de ces facteurs de production. Et c'est finalement l'évolution de ces deux éléments, les coûts des facteurs et la productivité, évolution combinée, qui fait que l'on est plus ou moins compétitif en prix. Mais la compétitivité en prix n'explique en réalité qu'une partie de l'évolution des parts de marché. Et on sait en France que les dégradations de parts de marché, que ce soit dans l'agriculture ou en général, ont été expliquées pour partie par l'évolution des prix, mais pour partie seulement. Et donc il y a un dernière explication qui est très très importante et que les économistes, pour masquer leur ignorance, appellent la compétitivité hors prix. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité hors prix ? Eh bien, c'est tout ce qui reste de l'évolution de vos parts de marché quand vous avez retiré l'impact de la compétitivité prix. Donc, c'est bien ce qu'on ne sait pas expliquer. Alors, quand on ne sait pas expliquer quelque chose et qu'on est économiste, on met quand même des déterminants derrière qui valent ce qu'ils valent. Donc, la qualité des produits, l'innovation, l'image de marque. Il y a toute une longue série de choses qui peuvent expliquer qu'à prix égal, les produits français se vendent de moins en moins bien. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans l'agriculture également. Nous reviendrons sur cette question pour l'agriculture. Alors, encore plus dans le détail, et puis je vais arrêter là le détail puisque sinon ça devient trop spécifique, mais vous avez ici sur ce graphique, sur la partie gauche les importations, donc avec les signes négatifs, sur la partie droite les exportations avec les signes positifs, et vous avez à chaque fois pour chaque catégorie de produits deux barres, la barre en bleu qui représente 2005 et la barre en rouge qui représente 2015, l'année la plus récente pour laquelle nous ayons des statistiques de ce type. Donc, on voit bien qu'il y a des secteurs dans lesquels les choses se passent plutôt bien et puis des secteurs dans lesquels les choses se passent très, très mal. Alors, sur les boissons, qui est donc l'ensemble des barques tout en haut du graphique, vous voyez bien que nos importations ont augmenté entre 2005 et 2015, mais nos exportations ont augmenté encore beaucoup plus. Donc, le secteur des boissons, notamment porté par le champagne, mais pas uniquement, est un secteur qui ne pose pas de difficultés particulières. Sur les céréales, eh bien, on a tendance à faire un petit peu le même constat. Et sur les produits laitiers, même si c'est un peu plus complexe, il n'y a rien de grave en la demeure. Alors, quand vous regardez les secteurs dans lesquels les choses ne vont pas du tout, vous trouvez les viandes, vous trouvez les fruits et légumes transformés et vous trouvez les fruits frais. Donc, ce sont les principaux postes sur lesquels nous avons des difficultés et nous essaierons d'expliquer ces difficultés dans un moment. Alors, ce dont nous venons de parler, c'est une vue très mercantiliste des choses, au fond, puisque nous regardons simplement les parts de marché, l'évolution de nos exportations, l'évolution de nos importations. Et beaucoup plus que cela, nous avons un problème agricole qui touche à d'autres dimensions qui me semblent au moins aussi importantes. La première de ces dimensions, c'est la question du revenu agricole. Nous allons voir comment il faut calculer le revenu agricole, c'est très compliqué, mais avant d'entrer dans ces détails, disons tout de suite que la situation est très différente selon les filières. La viande, dont nous venons de montrer les pertes de marché, mais aussi l'horticulture, sont des secteurs qui ont des niveaux de revenus, enfin dans lesquels les agriculteurs ont des niveaux de revenus faibles, voire très faibles. Je vais donner les chiffres tout de suite. Et ce que masque cette situation en moyenne, c'est que la variance d'une année sur l'autre peut être très très grande. Et quand la variance du revenu d'une année sur l'autre est très très grande, c'est très embêtant dans le secteur agricole en particulier, pour deux raisons. Un, beaucoup d'agriculteurs sont très endettés, et donc quand vous avez une variation du revenu à la baisse, évidemment ça a les conséquences que vous imaginez. Et deuxièmement, c'est très difficile de s'assurer. En tant qu'économiste, si on me dit, ben voilà, vous avez un risque qui peut être quantifié assez facilement sur les 10 prochaines années, d'avoir des bonnes et des mauvaises années, en tant qu'économiste, je vais aller voir mon assureur et il va m'assurer contre ce risque. Je vais payer une prime et ça me permettra de rembourser mes dettes les mauvaises années. Ben, ce type d'assurance n'existe pas ou est très difficilement accessible aux agriculteurs. Et donc, quand le revenu varie, que vous ne pouvez pas vous assurer, il faut stocker. On stocke les bonnes années et puis on essaye donc de déstocker ensuite. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très coûteux. Et évidemment, ça n'est pas possible pour toutes les productions. Donc endettement, difficulté à s'assurer, difficulté de stockage font que cette variance des revenus, qui en soi n'est pas nécessairement un problème, c'est assez naturel dans l'agriculture, peut avoir des conséquences assez dramatiques. Et ça conduit à des crises. À des crises récurrentes que les politiques doivent affronter avec le peu d'instruments dont ils disposent pour le faire. Donc ça, c'est l'aspect variantiel. Et puis, il y a une autre dimension qui est très, très importante, c'est que de façon quasi permanente, de façon structurelle, certains agriculteurs qu'on peut identifier assez facilement sont dans ce qu'on va appeler des trappes à pauvreté. c'est-à-dire compte tenu du niveau de revenu, compte tenu de la spécialisation qu'ils ont, compte tenu de leur endettement, compte tenu de l'évolution des marchés mondiaux dans lesquels nous sommes de plus en plus impliqués, eh bien, ces agriculteurs sont dans des trappes à pauvreté avec des conséquences sociales qui sont très souvent reprises, évidemment, par les médias et qui sont très, très douloureuses. Donc, c'est ça qui est difficile quand on parle de l'agriculture. Il faut reconnaître ces situations sociales désespérées, très souvent. Il faut reconnaître aussi que ça n'est pas toute l'agriculture et que tout va très bien pour certains agriculteurs. Et il faut aussi dire cela en même temps que nous avons un descriptif des sommes gigantesques qui sont dépensées pour aider l'agriculture. Et donc, on va voir dans un instant les chiffres. Et quand je montre ces chiffres, en général, l'auditoire ne me croit pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de montrer ces chiffres. Alors sans faire trop de teasing, je vais continuer. Donc la population active recule. Bon, c'est assez naturel, mais c'est quand même à un rythme assez élevé, 6 000 agriculteurs par an. La déprise agricole, tout le monde a en tête ce que c'est assez rapide aussi. Et surtout, un fait qui est peu connu, voire pas connu, c'est que la productivité stagne ou que la productivité recule dans notre agriculture depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de progrès de productivité dans l'agriculture. Les progrès liés à la rationalisation de l'utilisation des espaces, au machinisme, aux engrais, aux phyto, à la génétique, tous ces progrès sont derrière nous. Et depuis 1995, il y a, selon les types de production, soit des reculs de la productivité, soit une stagnation de la productivité. À ceci s'ajoute, quand on veut adopter la perspective un peu plus large que j'ai évoquée au début, à ceci s'ajoute le fait que les filières françaises sont complètement désorganisées. Et ceci contraste avec, par exemple, les filières allemandes, qui sont beaucoup mieux organisées, j'en reparlerai. Ce qui se traduit en particulier par une pression de la grande distribution sur les agriculteurs, c'est quelque chose qui est très connu, et moins connu, mais au moins aussi important à mon sens, et ça va être un des points sur lesquels je vais insister beaucoup, une dégradation environnementale assez phénoménale. Et ceci malgré un fort soutien public. Alors tout le monde a en tête que, bon an, mal an, on dépense. Ce n'est pas que de l'argent français, hein, c'est beaucoup d'argent européen, donc c'est beaucoup nos amis allemands qui payent, mais quand même. Donc on dépense 10 milliards d'euros par an. Et donc, si vous ramenez ça à une exploitation agricole moyenne, ça veut dire qu'on dépense 32 000 euros par an et par exploitation en moyenne. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu? Ben, faut prendre des points de comparaison, parce que 32 000 euros ne veut rien dire en soi. Donc, ça représente 40% de la valeur ajoutée de l'exploitation moyenne. 40% de la valeur ajoutée. Et ça représente, en moyenne, 60% du revenu agricole de cette exploitation. Voilà les ordres de grandeur. Alors, quand je présente ces chiffres, évidemment, l'auditoire pense que je suis un ultralibéral qui veut couper ces sommes. Ce n'est pas du tout le point. Le point, c'est d'opposer les sommes gigantesques qui sont dépensées avec donc le fait qu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs qui, par ailleurs, sont parfaitement légitimes. Alors, il y a beaucoup de variances d'un secteur à l'autre. Et c'est là qu'on retrouve la question des trappes à pauvreté et de la difficulté à les compenser. Si vous prenez le secteur bovin, viande, donc pas pour le lait, pour la viande, hein, le secteur bovin-viande, certaines années, les aides reçues représentent 150% du revenu. Alors, un rapide calcul, il n'y a pas besoin d'être économiste, montre qu'il y a un problème. Si votre revenu est 100 alors que vous recevez 150 d'aide, c'est qu'il y a un souci. Donc, où passe le reste? Eh bien, le reste, c'est simplement que la valeur de votre production, si je retire les aides, est beaucoup trop faible. Donc, il faut payer les consommations intermédiaires, le fourrage, etc., le vétérinaire, que sais-je. Et donc, payer toutes ces consommations intermédiaires représente des sommes tellement élevées que finalement la faible valeur de votre production ne permet pas de subvenir à vos besoins. Donc on est vraiment dans cette situation où la viande, ça peut aller jusqu'à 150% du revenu. Alors j'ai pris un exemple extrême, dans l'élevage ovin, dans les Alpes, où on est à 280%, si je ne me suis pas trompé, c'est-à-dire que vous recevez 56 000 euros de transfert, et avec ces 56 000 euros de transfert, vous dégagez un revenu annuel de 20 000 euros. 20 000 euros, ce n'est pas grand-chose sur une année, mais pour atteindre 20 000 euros, vous avez travaillé beaucoup, etc., et vous avez 56 000 euros de transfert. Alors probablement que quand on regarde ces chiffres, on compare des chiffres qui, au fond, renvoient à des réalités différentes. Parce que les 20 000 euros que vous obtenez en tant qu'éleveur ovin dans les Alpes, c'est 20 000 euros pour la vente de votre production. Mais cet éleveur a beaucoup d'autres éléments d'utilité. Il est à l'origine d'aménités diverses. Il entretient le paysage, il maintient une occupation, il empêche la fermeture des paysages. Et donc, si on devait monétiser tout cela, la valeur de sa production serait beaucoup plus grande. Et donc, c'est une des justifications importantes de ces transferts très importants. Ce sont les aménités de l'agriculture, ce que les économistes appellent les externalités de l'agriculture, c'est-à-dire les éléments de production agricole qui ne sont pas valorisés par le marché, mais qui doivent être valorisés par la société. Tout irait bien si l'agriculture n'avait que des externalités positives. Mais l'agriculture a aussi quelques externalités négatives, nous y reviendrons. Alors, à ceci s'ajoutent des aides indirectes, et là, quand on mentionne ces aides indirectes, en général, il y a une levée de boucliers pour dire que c'est absolument scandaleux de dénoncer ça. Je ne dénonce pas, je dis simplement que ces aides existent. Donc, défiscalisation des carburants, déductions fiscales diverses pour les aléas climatiques, déduction pour les investissements, ce qui conduit certains agriculteurs à se suréquiper pour éviter l'impôt. Et un point qui est très très délicat sur le plan social, c'est les régimes sociaux des agriculteurs qui sont en grande difficulté, qui ne sont pas soutenables. Évidemment, ils ne sont pas soutenables d'abord pour des raisons démographiques. Si vous perdez de nombreux agriculteurs chaque année, par construction, le régime n'est pas soutenable. Mais la péréquation qui est faite, sans que je donne les chiffres aussi, les calculs ont été faits, montre que la péréquation va au-delà de ce qui serait la compensation, de la compensation démographique. Donc les régimes sociaux des agriculteurs sont intrinsèquement non soutenables. Là aussi, ce n'est pas forcément un problème. Ça fait partie de l'aide qui est apportée à l'agriculture, mais il faut le savoir. Alors, ceci génère de fortes inégalités entre agriculteurs, le système dans lequel nous vivons. Alors, la grande difficulté, c'est de donner des chiffres pour cela. Alors, on va tout d'abord se mettre d'accord sur le fait qu'on considère les seuls agriculteurs professionnels. Donc, vous allez vous étonner de cette catégorie qui vient d'être inventée. En réalité, si j'ai quelques arpents de terre agricole derrière chez moi, et si j'ai quelques ruches, je peux me déclarer agriculteur. Et donc, ce n'est pas très intéressant de regarder, évidemment, mon revenu agricole. Donc, il y a les statistiques fonctionnent comme ça. Il y a des critères, plus que 20 hectares, etc., qu'on utilise, je ne rentre pas dans les détails, qui permettent de définir ce qu'on appelle un agriculteur professionnel. Et donc, la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est comparer les revenus des ménages agricoles. Parce que chacun sait que les ménages agricoles sont pluriactivités. Par exemple, ils vont avoir des accueils de touristes ou une des deux personnes dans le ménage va travailler au moins à mi-temps dans d'autres activités que l'agriculture, faire de l'aide ménagère ou voilà. Donc, il ne faut pas du tout comparer les revenus des ménages parce que ça fausse tout. Donc, la seule chose qu'il faut faire, pour être précis, c'est comparer le résultat moyen avant impôt que l'on tire de l'activité agricole en intégrant les aides. Et donc calculer ça par actif non salarié sur l'exploitation en se limitant aux exploitations moyennes et grandes. D'accord ? Et quand on fait ça, on arrive à un revenu de 30 000 euros par an par actif non salarié. Ce n'est pas les salariés agricoles. Hein, c'est 30 000 euros par an par actif non salarié. Et ça, c'est plus que le revenu moyen en France, salarié. Donc en moyenne, les agriculteurs ne sont pas pauvres, compte tenu des aides. Mais il y a une très forte disparité qu'on va voir dans un graphique dans une seconde, puisque si vous êtes plutôt dans le secteur caprin, vous êtes plutôt autour de 18 000, et si vous faites des céréales dans la Beauce, vous êtes plutôt à 60 000. C'est l'ordre de grandeur de la dispersion. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, il y a des années où les choses vont très mal. Et donc, quand vous êtes à 60 000, si vous perdez 20% de votre revenu, ça va. Quand vous êtes à 18 000, c'est plus difficile. Et donc, maintenant, si on regarde la dynamique de la progression de ce revenu, ça s'explique uniquement par la baisse du nombre des agriculteurs. La seule chose qui fait qu'on augmente le revenu agricole, à peu près au rythme des revenus des Français, des autres Français, c'est la baisse donc des effectifs. Alors, dernier point, la richesse n'est pas faite que de revenus, elle est même surtout faite de patrimoine. Les agriculteurs ont un patrimoine beaucoup plus élevé que la moyenne. Ils ont aussi un endettement beaucoup plus élevé que la moyenne. Et donc, l'un dans l'autre, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup plus de richesse. Alors, voici le graphique qui vous montre comment cette dispersion d'une année sur l'autre, mais aussi au sein des différentes catégories d'agriculteurs, joue. Donc, pour aller très vite, les cultures générales, donc tout à fait à droite, sont les endroits où donc les revenus sont plutôt plus élevés. Et les bovins, la viande, ovins, caprins, l'arboriculture, vous voyez, c'est les endroits où les revenus sont beaucoup plus bas. Et si vous prenez simplement les quatre barres à droite, en comparant la culture générale et la viticulture, vous voyez que ce qui est bon une année pour un secteur n'est pas bon pour l'autre. Hein. Vous voyez que 2014 a été bon pour la viticulture, mais pas bon pour les céréales, et inversement pour 2013. Alors, j'ai déjà dit, si on découpe donc la distribution des revenus en cellules, les endroits où on est les plus pénalisés, enfin les caractéristiques qui font de vous un agriculteur fortement pénalisé en termes de revenus, c'est d'une part le fait de travailler sur des bovins ou des ovins allaitants. Ça, c'est la situation la pire. Légumes de plein champ. Si vous êtes un viticulteur non AOC, et puis, surtout, aux deux extrémités du spectre démographique, les retraités, qui ont des retraites faibles, et les jeunes qui doivent s'endetter. Et on va voir qu'ils doivent s'endetter, notamment à cause des politiques qui ont été mises en place, même si les politiques visent à aider les jeunes. Alors, le système d'aide qu'on a en France, mais qui n'est pas que français, hein, on est sur une politique européenne, jusqu'à 2015, on verra que les choses ont changé récemment, donc ont été distribués sur une référence historique. Donc, sans aller dans les détails de ce type de mécanisme, si vous distribuez les aides sur la base des aides déjà distribuées l'année précédente, et l'année précédente, et l'année précédente, eh bien, vous êtes dans une situation où, mécaniquement, vous perpétuez les inégalités qui existent et qui ont été évoquées plus haut. Alors, les Européens ont bien compris cela, et il y a une réforme de la PAC qui a été passée, qui modifie cela et qui introduit une aide forfaitaire à la surface, mais qui donne en même temps aux États membres la possibilité de moduler donc comment les aides sont distribuées. Donc la France a modulé, puisqu'elle pouvait le faire. Et ce qui a été fait en France, c'est une modulation en direction des, entre guillemets, petits agriculteurs. Donc on a donné une sorte de bonus aux premiers hectares, aux 64 premiers hectares. Donc en faisant ça, on a réalloué vers les petites exploitations. Et par construction, comme la taille des exploitations est aussi quelque chose qui dépend de la localisation des exploitations, on a aussi réalloué vers la moyenne montagne, où les exploitations sont plus petites. On a réalloué vers des endroits où on fait plus de l'extensif, et on a réalloué vers les viticulteurs et les maraîchers qui, pour des raisons diverses, étaient jusqu'ici restés un peu à l'écart des systèmes d'aide. Alors tout ça est finalement assez bon parce que ça corrige une partie des problèmes que nous avions évoqués, mais la plupart des économistes vous diront que prendre la surface comme critère d'allocation des aides et viser un objectif social, c'est probablement pas très efficace. On aurait pu trouver des systèmes un peu plus astucieux. Alors, l'autre point qui est très très important, c'est la situation environnementale. Donc la situation environnementale, elle est très alarmante dans l'agriculture. Alors que les agriculteurs se plaignent de tout un d'un carcan administratif en matière environnementale. Donc, comme moi, vous avez l'habitude pendant vos congés d'aller parler avec des agriculteurs pour voir un petit peu, on est citadins, donc pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ça va si mal. Et donc, ce qui vous est expliqué, c'est que vous avez des, par exemple, des restrictions à l'irrigation. On ne peut pas irriguer comme ça, il y a des restrictions. Il y a certaines surfaces qui sont classées en zone vulnérable. Donc si par malchance, d'une certaine façon, vous êtes classé en zone vulnérable, vous allez devoir entretenir des haies, enfin il y a tout un ensemble, des bosquets, etc. Il y a tout un ensemble de critères qui font que c'est beaucoup plus coûteux pour vous, parce que vous n'allez pas pouvoir passer comme ça avec le tracteur, il va falloir faire des choses beaucoup plus évoluées. Les procédures de contrôle, parce que tout ça est contrôlé par une administration tatillonne, sont chronophages. Ça vous prend beaucoup de temps, ça coûte très cher. Chaque agriculteur est obligé de tenir donc une sorte de cahier de tout ce qu'il fait en matière d'épandage, de phyto, etc. Tout ça est très détaillé et doit pouvoir, évidemment, présenter ceci au contrôleur. Et donc, ce que tout le monde vous dira, c'est que les risques d'erreur sont grands. Avec la meilleure volonté du monde, etc., les risques d'erreur existent. Et donc, il y a une forme d'insécurité juridique par rapport au contrôle. On connaît ça ailleurs en France. C'est-à-dire que quand vous êtes contrôlé, vous êtes sûr de vous faire attraper. Les agriculteurs souffrent beaucoup de ça. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et ils craignent d'être contrôlés. Et quand ils sont contrôlés, d'une certaine façon, sont contrôlés positifs, si j'ose dire. Voilà. Avec la meilleure volonté du monde, mais simplement parce que c'est très compliqué. Et ce dont se plaignent les agriculteurs, aussi, très souvent, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, c'est l'idée de précaution, hein, le principe de précaution, qui est quelque chose d'européen, pas juste de français. Et donc, ils vous expliquent que ceci entrave, au fond, l'innovation ou entrave ce qu'ils font. Donc ça, c'est la perception des agriculteurs. Maintenant, vous pouvez prendre un autre point d'entrée dans le sujet, qui est la réalité de l'environnement dans les zones rurales. Et donc, tous les indicateurs de pollution des eaux de surface sont au rouge. Tous les indicateurs de pollution des nappes sont au rouge. Le taux de matière organique dans les sols est quelque chose qui baisse très vite en France. Et on a aujourd'hui... donc le chiffre est approximatif, mais à peu près 20% des surfaces agricoles en France qui sont considérées en risque d'érosion, au sens où le taux de matière organique est suffisamment faible dans le sol que des pluies abondantes, etc., puissent les lessiver. 20%, c'est absolument colossal. Il y a eu des politiques qui ont poussé dans ces directions, des politiques malheureuses. L'une qui a été arrêtée, c'est d'encourager au maïs fourrage, ce qui a entraîné le recul des prairies. Or, les prairies ont toutes les vertus qu'on connaît en matière de stockage des eaux, etc. Inutile d'y insister. Et donc, quelque chose que j'ai regardé de près et à quoi je suis assez attaché, c'est donc les indications qui nous sont données par les marqueurs. C'est-à-dire, vous n'avez pas une vue directe de la dégradation de l'environnement, mais vous avez un certain nombre de marqueurs qui vous disent que l'environnement est en train de se dégrader. Donc, il y a des gens qui comptent les papillons. Par exemple, vous en avez peut-être déjà rencontré dans vos promenades, c'est un travail assez précis et donc les décomptes que nous avons montrent que nous avons perdu en 20 ans à peu près la moitié des papillons. Donc les papillons sont à un bout de la chaîne alimentaire et on voit la conséquence du reste. Autre marqueur, je pourrais vous en donner plusieurs, donc les oiseaux. Il y a des baisses importantes du nombre d'oiseaux. Donc il faut regarder les décomptes du muséum, c'est assez intéressant. Et il y a des espèces qui souffrent des labours trop fréquents, de l'épandage des engrais trop forts, des phytos, etc. Ça porte à sourire quelquefois, mais cette espèce existe vraiment et est en train de disparaître. La caille des blés. Donc la caille des blés est utilisée comme un marqueur pour voir que son recul nous informe au fond sur quelque chose qui ne va pas dans les pratiques agricoles. Alors bien sûr, les agriculteurs ne sont pas les seuls à avoir donc un impact négatif sur l'environnement. On sait bien qu'avec l'urbanisation, le développement des zones commerciales, des routes, etc., les surfaces perméables sont en recul permanent. Mais quand on regarde les choses en comparant ce qui se passe dans les zones urbaines et dans les zones rurales, eh bien, de façon assez inattendue, le recul de la qualité de l'environnement, sur la base de tous les marqueurs que j'ai évoqués, est plus rapide c'est général, mais c'est plus rapide dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc il y a un vrai sujet sur les pratiques agricoles. Alors ça n'est pas qu'une question environnementale. Cette question environnementale est malheureusement, et ceci aggrave la situation, devenue une question économique pour les agriculteurs eux-mêmes. Les calculs qui ont pu être faits montrent que le coût aujourd'hui des pollutions azotées est exactement ou à peu près exactement égal au supplément de production que permet l'épandage d'azote ramené en euros. Donc, en fait, la pollution que vous apportez d'un côté vous permet de produire plus, et la valeur de ce que vous produisez en plus, c'est exactement la valeur, au signe près, de la pollution supplémentaire. Par conséquent, donc cette dégradation de l'environnement a fait disparaître un certain nombre d'espèces qu'on a tous en tête, qui étaient des espèces qui contrôlaient les ravageurs sur les cultures. Et donc, comme ces espèces reculent, les agriculteurs sont obligés de mettre plus de phyto. Et comme ils mettent plus de phyto, ça fait reculer les pollinisateurs ou d'autres espèces. Et à ce moment-là, vous avez une baisse des rendements. Donc on est rentré dans un cercle vicieux où la dégradation de l'environnement entraîne un usage accru de substances chimiques, et cet usage de substances chimiques, à son tour, dégrade l'environnement. C'est aggravé par le fait que les agriculteurs ont plutôt tendance à se spécialiser, et les régions ont plutôt tendance à se spécialiser, et donc la monospécialisation augmente les crises sanitaires, que ce soit dans le végétal ou dans l'animal. Donc le dernier exemple en tête, vous l'avez vu il y a quelques jours, puisqu'on en a beaucoup parlé, c'est la volaille ou plus précisément les canards dans le sud-ouest. Donc les agriculteurs aujourd'hui sont dans une grande difficulté, et ils ont l'impression que les réglementations environnementales qui sont imposées sont un véritable carcan, je l'ai dit, et donc il pourrait y avoir la tentation de faire une pause environnementale. Et c'est probablement la dernière chose à faire. Alors, quelle cause, quelle politique? Rentrons un petit peu dans le détail. Est-ce que les agriculteurs français ont des exploitations trop petites? C'est pas sûr. Donc, les chiffres sont rappelés ici. Là, on parle des grandes et moyennes, donc celles qui comptent vraiment en termes d'activité économique. L'ordre de grandeur des exploitations en France, de la taille des exploitations en France, c'est pas très différent de ce qu'on voit dans les principaux concurrents européens. C'est beaucoup des exploitations familiales, mais ça, les travaux microéconomiques montrent qu'elles s'en sortent plutôt bien, les exploitations familiales. Et de toute façon, si vous cherchez une relation entre taille et efficacité, c'est beaucoup plus difficile à observer de façon aussi nette dans l'agriculture que dans l'industrie. Dans l'industrie, plus c'est grand, plus c'est efficace, c'est les économies d'échelle, même si tout ça est aussi en train de changer. Mais dans l'agriculture, ça n'est pas nécessairement vrai. Vous avez un seuil minimal, c'est-à-dire il faut que l'exploitation soit assez grande, assez productive, etc., pour payer le premier actif sur l'exploitation. Mais au-delà, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui poussent à dire que la taille moyenne est très largement suffisante. Donc ça, c'est en niveau, mais si vous regardez la dynamique et si vous regardez les nouvelles tendances de l'agriculture, ça va changer. Ça va changer parce qu'aujourd'hui, précisément pour les questions environnementales, il faut aller vraiment dans la finesse en matière d'épandage des produits, etc. Et il faut recueillir énormément de données. Donc ce qu'on appelle un peu vite le big data, c'est quelque chose qui est aujourd'hui rentré complètement dans l'agriculture. C'est-à-dire aujourd'hui, les tracteurs ont des capteurs pour donc se combiner avec les satellites, etc. Enfin voilà, la géolocalisation. Tout ça fait d'immenses bases de données pour affiner le déversement des engrais, des traitements, etc., pour aller vraiment à la plus grande efficacité possible. Et donc, les investissements à réaliser pour suivre cette tendance sont gigantesques, et des agriculteurs individuels ne peuvent probablement pas les suivre. C'est vrai aussi des capacités de stockage, j'ai parlé du stockage tout à l'heure, c'est vrai aussi du traitement des effluents, qui va aussi avec l'environnement et qui coûte très très cher. Et parallèlement, les nouveaux États membres en Europe sont des pays qui, eux, ne se posent pas le genre de questions que nous nous posons. Donc, eux vont direct sur les économies d'échelle, en particulier en matière de vaches laitières. Voilà. Et où les économies d'échelle sont, c'est en aval. C'est dans l'abattage, c'est dans la transformation, c'est dans l'industrie, puisque au fond, c'est bien aujourd'hui qu'entre l'industrie et l'agriculture, la frontière est en train de disparaître. Il y a de plus en plus de matières agricoles qui sont utilisées dans l'industrie en substitut, par exemple, du pétrole. Donc la taille, probablement pas un problème. Les contraintes réglementaires et le coût du travail, J'ai déjà beaucoup parlé des contraintes réglementaires, je ne vais pas m'y attarder. Ce qui est important de dire, c'est que en matière de coût du travail, la France a réellement un sujet, en particulier dans l'agriculture. Ça s'est tassé aujourd'hui dans l'industrie, notamment avec le CICE, mais en matière agricole, on a un vrai sujet. Si vous prenez l'abattage, secteur en grande difficulté en France, si vous prenez les fruits et légumes, dont on a vu la régression à toute vitesse, eh bien, le coût du travail en France, c'est une fois et demie le coût du travail en Allemagne. Une fois et demie. Voilà. Donc, à ceci s'ajoute le fait qu'en Allemagne, les agriculteurs tirent une grande partie de leurs revenus des subventions aux énergies renouvelables, qui sont distribuées à très grande échelle. Et ça n'est pas le cas en France. Alors en France, il y a des compensations par rapport à tout ça. Le coût du foncier est plus faible, la fiscalité est plus avantageuse, mais on a aussi des prestations sociales qui sont plus généreuses. Mais l'un dans l'autre, à la fin, c'est quand même le coût du travail qui compte dans certaines activités. Bon, les fruits et légumes, il faut les cueillir. Hein. Donc le coût du travail, ça compte, et une fois et demie le coût de l'Allemagne. Troisième facteur qui est très important, le progrès technique. Ça n'est pas assez dit, mais en France, le progrès technique est relativement en berne dans l'agriculture. Quand on regarde la productivité globale des facteurs, qui dépend de l'efficacité du capital, de l'efficacité de l'organisation, du progrès technique, des rendements, eh bien, on s'aperçoit que tout ça plafonne, comme je l'ai dit. Par exemple, depuis 2005, on n'a plus de progrès pour l'orge, et depuis 2005, ça diminue pour le blé. Alors que, si vous regardez les phytos qui sont utilisés, ça croît. Donc il faut de plus en plus de phytos, d'engrais, donc de plus en plus d'intrants pour arriver au même niveau de rendement. Et comme vous le savez peut-être, on est arrivé à un point où la qualité du blé en France est insuffisante. Et donc pour faire des farines qui sont utilisées dans certaines activités, eh bien on est obligé d'importer du blé qui est de meilleure qualité et le mélanger au blé français. Donc le changement climatique joue un rôle, bien sûr. Hein. La baisse des populations de pollinisateurs dont on a parlé joue un rôle. Mais au fond, probablement, le progrès technique ne suit plus dans l'agriculture aujourd'hui, sans même parler du rejet du progrès technique par la population. Alors, j'ai dit qu'il y avait la compétitivité prix, puis la compétitivité hors prix. La compétitivité hors prix est en berne. Les filières en France sont très très mal organisées, c'est la grande différence avec l'Allemagne. Il y a des grands acteurs, la grande distribution des petits acteurs, beaucoup de pression des intermédiaires et de la grande distribution, et fondamentalement des relations assez moyenâgeuses entre fournisseurs et clients, avec des marges très très faibles. Là encore, en Allemagne c'est très différent, et même le hard discount en Allemagne a une attitude par rapport aux agriculteurs qui est très différente de ce qu'on connaît en France. Quant à la stratégie de compétitivité hors prix suivie par nos filières, elle est très contestable. On a une idée en France qui est fausse, et cette idée, c'est que l'indication géographique, c'est la solution de tous les problèmes. Donc, ça n'est pas vrai, parce que c'est peu lisible au niveau international. Les labels de qualité franco-français sont des labels qui aussi sont assez peu lisibles. J'ai l'habitude de dire, pour décontracter un petit peu, que le label rouge, donc quand on essaye de vendre des produits en Chine, ça aide pas beaucoup, quoi. Donc c'est assez peu lisible, et on a une fragmentation des appellations au lieu d'avoir des marques très très importantes. Et donc ça choque nos oreilles de Français. On préfère avoir des fromages, des vins, etc., qui sont associés à des appellations d'origine contrôlées. Mais quand vous êtes en concurrence avec des Australiens, des Argentins, des Chinois, ça ne marche plus comme ça. D'autant que une grande partie des productions agricoles aujourd'hui va vers l'industrie qui les transforme. Et quand l'industrie transforme, quand vous faites des nuggets, quand vous faites des hamburgers, etc., l'appellation d'origine contrôlée n'a plus grande importance. Donc, à la fin, si même on veut se spécialiser sur le haut de gamme, ce qu'on conseille souvent, le haut de gamme, c'est le haut de gamme. Donc, le haut de gamme, c'est étroit, c'est-à-dire que vous laissez tout le reste aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça dans les 2 minutes qui doivent me rester? C'est ça. Les 10 milliards dont on a parlé, ben, ce n'est pas nécessairement un problème. Juste, il faut s'organiser pour que ça fonctionne mieux. Et donc, la réforme qu'on pourrait proposer, c'est, je vais sauter ça pour gagner du temps, tout d'abord de re-réfléchir à ce qu'on va appeler les paiements verts et bleus. Donc les paiements verts, c'est une vraie appellation. Paiement bleu, c'est une appellation que j'ai utilisée par extension. Donc, augmenter la part des revenus des agriculteurs qui est liée à la préservation de l'environnement. On a vu les raisons pour lesquelles c'était important de défendre l'environnement dans les zones rurales. Donc, il faut privilégier l'éco-conditionnalité et rémunérer vraiment les aménités. Ce qu'on disait tout à l'heure sur notre agriculteur dans les Alpes, ben c'est vraiment ça qu'il faut rémunérer en essayant d'utiliser donc des indications qui sont des vraies indications sur la réussite des agriculteurs en matière d'environnement. Et ça peut se mesurer très bien à partir des marqueurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc pour l'instant, on utilise la longueur des bosquets, la longueur des haies, etc., qui est mesurée par satellite. Enfin, photographié par satellite, c'est tout à fait insuffisant. Il y a beaucoup d'autres marqueurs qui pourraient être utilisés. La difficulté, c'est que le succès de votre politique en termes environnemental, quand vous êtes un agriculteur individuel, dépend aussi de ce que font vos voisins. Et donc, il faut évidemment travailler sur un périmètre qui est un peu plus grand que le périmètre de l'exploitation. Et vous savez qu'il y a une nouvelle structure qui s'appelle les groupements d'intérêts économiques et écologiques. Et cette structure pourrait être utilisée pour, justement, redéverser une partie des aides en direction de l'environnement. Sans être trop long, la traçabilité, c'est probablement là où est le succès futur de nos produits. La France, n'y voyez aucune malice dans cette affirmation, mais la France a un avantage comparatif dans la réglementation. Ça, on sait très bien faire. Et donc, puisqu'on sait très bien faire, c'est reconnu d'ailleurs au niveau international, ça se retrouve comme un avantage, comme une compétitivité hors prix dans beaucoup de domaines. Regardez les raisons pour lesquelles nos amis chinois investissent dans les laiteries en France. C'est typiquement parce que la réglementation environnementale en France, le suivi vétérinaire, etc., est suffisamment strict, fonctionne suffisamment bien pour qu'ils puissent garantir que le lait maternisé soit de bonne qualité, ne soit pas frelaté. De la même façon, les viandes sans antibiotiques sont aujourd'hui, le jambon sans antibiotiques, etc., c'est quelque chose qui marche très très bien et qui est simplement le résultat de ce travail réglementaire, de toute la chaîne très très bien organisée de contrôle vétérinaire que nous avons en France. Donc cette traçabilité, c'est pas du tout des appellations d'origine contrôlée, etc., c'est vraiment la qualité du produit, mais au sens qualité intrinsèque, pas la perception, mais la qualité intrinsèque et la qualité sanitaire des produits, c'est vraiment quelque chose que la France doit développer. Et évidemment, il y a beaucoup de pistes dans l'innovation, au sein des universités, bien sûr, au sein des lycées agricoles, dans lesquels l'enseignement numérique pourrait être développé, et la formation permanente. C'est très difficile d'aller en formation permanente quand vous êtes agriculteur, en particulier éleveur, parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de vos bêtes. Et donc là, il y a des systèmes qui peuvent être trouvés. Dernier point, il faut probablement abandonner la référence aux surfaces progressivement et cibler sur les aménités. Et enfin, une idée qui n'est pas très populaire, probablement que compte tenu des aides qui sont distribuées, il faudra introduire une borne supérieure au paiement individuel qui ne rémunère pas un bien public, d'accord, qui ne rémunère pas une aménité. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut probablement redonner un petit peu d'initiative aux agriculteurs et laisser les différents types d'agriculture se développer. Si quelqu'un veut essayer une ferme de 10 000 vaches en France, ben allons-y à partir du moment où environnementalement ça tient. Donc ça, c'est celui qui est tourné vers les prix. Ceux qui sont tournés vers les AOC, même si je pense que ce n'est pas la solution systématique, ben il faut les aider aussi. Et puis, il faut aider surtout ceux qui s'orientent vers la production de biens publics, l'entretien du paysage, de l'environnement, et qui ont des fonctions beaucoup plus larges que la production de biens agricoles au sens strict. Et enfin, il faut sécuriser plus les revenus des agriculteurs, notamment pour ceux qui sont les plus endettés. Voilà, j'en ai terminé avec un débord d'une minute simplement. Donc, je vous donne ici quelques références que vous pourrez avoir envie de lire sur tous ces sujets, à la fois de compétitivité et d'agriculture, sur lesquels j'ai travaillé récemment. L'aspect le plus récent est évidemment le rapport que vous avez peut-être vu sur le CETA, l'environnement et le climat et la santé, que nous avons rédigé avec d'autres collègues pour le Premier ministre, pour répondre aux inquiétudes relevées en matière justement d'environnement dans cet accord. Je vous remercie.